Alors, j'ai eu la joie de participer à une retraite d'église avec l'église de Bruxelles Centre, rue du Moniteur, en début octobre. Et je me souviens que dans les échanges, j'avais eu l'occasion d'entendre qu'un des chocs pour les Belges à ce moment-là, c'était début octobre, même si ça faisait quelques semaines, il y avait eu l'annonce de la fermeture d'une usine à Gosselies, l'usine Caterpillar. C'était un peu un choc à ce moment-là. Et puis, depuis, il y a eu cette demande d'un délai supplémentaire pour le traité CETA. Et le constat un peu qui a été fait ici et ailleurs, c'est que la sécurité financière et économique d'une région, d'une nation, elle est parfois remise en question. Cette sécurité, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Et en pensant un petit peu à des crises financières qui ont été constatées ces dernières années, on peut penser à 2008 en particulier, et il y a une image qui reste gravée dans ma mémoire, une image qui devait un peu symboliser cette crise économique. Et si vous voulez bien vous imaginer, c'était à Londres, ces images étaient prises à Londres, il y avait des courtiers, et imaginez une salle de courtiers avec beaucoup de personnes qui parlent au téléphone, qui parlent assez fort, qui désirent se faire entendre. Et la caméra est tournée vers un homme en particulier qui est debout et qui parle fort, qui cherche un interlocuteur dans la salle. Et à un moment donné, il crie « Il n'y a personne qui m'écoute ici !»« Il n'y a personne qui m'écoute ici !» Et l'image suivante, c'est qu'il prend sa tête entre ses mains, complètement effondré. Et il y a un de ses collègues qui s'avance, il ne sait pas trop comment s'y prendre, que faire. Et il se tient derrière lui et on sait qu'on réalise maladroitement qu'il ne sait pas trop comment faire pour le consoler. Et dans les journaux, on a pu voir, dans les reportages aussi, suite à une crise financière comme celle-là, qu'un des constats, ce n'est pas simplement sur un plan collectif, une nation, une région, mais sur un plan individuel, pour une personne qui perd son emploi, il y a la question de la valeur, de l'identité d'une personne qui perd son travail. Une crise qui se vit sur un plan individuel, ça peut être dans le travail justement, ça peut être aussi sur un plan personnel dans d'autres domaines. Le sentiment de ne pas avoir de valeur parce qu'on arrive à un âge avancé et où on ne se sent plus dépendant des autres. Ça peut être aussi parce qu'on n'est pas marié, on vivait dans l'attente d'un mariage et ce mariage ne vient pas. Le sentiment de ne pas avoir de valeur aux yeux de quelqu'un. Ça peut être aussi parce qu'on a déménagé, parce qu'on se retrouve dans une autre nation et là on a le sentiment qu'on a perdu le tissu relationnel qu'on avait, les relations qu'on avait, la valeur qu'on avait aux yeux des autres. Et même si ce n'est pas dit explicitement, cette question de notre valeur, de notre identité, elle est posée à différents moments dans notre parcours, à la fois collectivement et individuellement, en temps de crise. Inversement, quelqu'un il peut penser qu'il peut affronter toutes les situations de la vie, à tort, penser qu'il est au-dessus des difficultés de la vie, au-dessus des crises. Et ce qu'on va méditer maintenant dans ce premier temps, je vous suggère, c'est un texte où Jésus va nous inviter à simultanément prendre conscience de nos limites avec une plus grande lucidité. Et dans le même temps, Jésus veut nous amener par son amour à une plus grande sécurité, à une plus grande sérénité, dans la conscience de son amour. Je vous invite à lire un passage qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, les versets 25 à 37. Il s'agit de l'évangile de Luc, chapitre 10, les versets 25 à 37. Je vous lis dans cette version. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force
et de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. » De même aussi, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. S'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent... les donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, « Va agir de la même manière, toi aussi. » Luc nous présente ce récit dans le contexte d'un voyage de Jésus vers Jérusalem. Il est en route vers Jérusalem, nous sommes au 1er siècle de notre ère. Il s'agit d'une conversation entre un théologien et Jésus. Un théologien qui vient, et on va voir cet échange en 4 jalons, avec une question au verset 25. Et on va parler ensuite d'une limitation dans les versets 26 à 29. Une réponse dans les versets 30 à 36, et ensuite une extension au verset 37. Une question, une limitation, une réponse, une extension. À la question, Jésus va apporter une réponse. À la limitation, il va parler d'une extension. Mais l'ordre dans lequel ces choses se trouvent sont importantes. Tout commence avec une question au verset 25. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Ou autrement dit, qu'est-ce que je dois faire pour être accepté par Dieu ? Comment faire pour être approuvé par lui ? Et c'est une question essentielle à se poser, en particulier dans la perspective de la vie éternelle, de la vie après la mort, une question importante à se poser. Et comment est-ce que Jésus répond ? Eh bien, il lui répond à son tour par une question. Sachant qu'il a affaire à un professeur de la loi, il lui demande de résumer cette loi, qu'il y tue, et il le fait par 2 commandements qu'il donne. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Aime Dieu, aime ton prochain. » Et comment est-ce que Jésus réagit à la réponse? Au verset 28, il lui dit « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Tu as bien répondu, parce qu'en effet, d'obéir à ces 2 commandements, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, n'est-ce pas un magnifique résumé d'une vie qui est agréable à Dieu? Mais ensuite, Jésus lui dit, fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. La réponse, elle pourrait sembler normale, banale, mais ça nous fait quand même réfléchir. Est-ce que c'est de cette façon que Jésus répond normalement à la question de la vie éternelle? Est-ce de cette façon que Jésus va présenter la manière d'atteindre la vie éternelle? Pensez par exemple à une autre conversation de Jésus avec un théologien, un Nicodème par exemple, comme on le voit dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Nicodème vient de nuit vers lui et reconnaît en Jésus un enseignant, un maître. Et Jésus le coupe tout de suite dans son élan pour lui dire quoi? Pour lui dire qu'il ne va pas simplement falloir un enseignement ou la petite réforme qu'il est nécessaire de vivre. Il va falloir quelque chose d'aussi radical qu'une nouvelle naissance. Il va falloir une foi en Jésus. Et pour vivre cette foi, il va falloir une nouvelle naissance, une naissance qui est possible par le Saint-Esprit. Il le coupe tout de suite dans son élan. Ça ne se fera pas simplement avec un enseignement à vivre, à mettre en pratique. Il va falloir une foi en Jésus. Il va falloir quelque chose d'aussi radical qu'une nouvelle naissance produite par le Saint-Esprit. Alors, comment se fait-il ici que Jésus dit simplement à cet homme qui lui demande comment avoir la vie éternelle, « Fais cela et tu vivras. » Pourquoi est-ce qu'il lui dit cela? Peut-être qu'un élément qu'on pourrait relever au verset 25, c'est que ce professeur de la loi, quand il vient vers Jésus, c'est pourquoi? Pour lui tendre un piège. Dans quelle position est-ce qu'on se place quand on veut tendre un piège à quelqu'un? Est-ce que ce n'est pas justement dans la position de quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui sait précisément où il va et qui prend la personne qu'il veut prendre au piège de haut, avec condescendance, avec le sentiment qu'il va justement la piéger, cette personne? Et ce professeur de la loi, il pense savoir précisément que c'est par l'obéissance à la loi qu'il va pouvoir être justifié devant Dieu, qu'il va pouvoir avoir la vie éternelle. Et parce qu'il sait que Jésus a un message différent, il pense pouvoir le piéger sur cette question-là. Mais Jésus ne tombe pas dans le panneau. Et au lieu de lui donner la réponse qui va mettre l'accent sur une foi en lui, il accepte d'aller dans son sens. « Fais cela et tu vivras. » Ici, dans sa manière de répondre, Jésus montre que c'est lui le maître du jeu. Le professeur de la loi, il venait en pensant pouvoir piéger Jésus, mais ce qu'on va voir au fil de la conversation, c'est que c'est Jésus qui va lui tendre un piège. Et dans un premier temps, on peut quand même reconnaître que Jésus a raison sur un plan théorique. Si quelqu'un arrive à aimer Dieu, à aimer son prochain parfaitement, mais est-ce que Dieu ne l'approuverait pas? Bien sûr qu'il l'approuverait. La question sur un plan pratique, et on va le voir ici, c'est qui arrive ici, parmi nous, qui arrive ici? Et cet homme, est-ce qu'il arrive à aimer Dieu, à aimer son prochain parfaitement? Sur un plan théorique, c'est vrai, mais sur un plan pratique, qui y arrive? Des questions qui nous amènent à une limitation. Cet homme, il est surpris par la réponse de Jésus et au verset 29, on lit que, voulant se justifier, il dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Ce professeur de la loi, il se sent obligé de se justifier devant Jésus. Pourquoi est-ce qu'il se sent obligé de se justifier? Il était sûr de lui au départ, c'est lui qui est venu piéger Jésus, c'est lui qui voulait le prendre au piège. Et là, tout à coup, il doit se justifier. Demande jusqu'où est-ce qu'il doit aimer. Autrement dit, dans sa tête, il se dit, d'accord, mais je ne peux quand même pas aimer tout le monde. Il va falloir des limites à cet amour, non? Et on réalise que face aux exigences de la loi, il se sent limité. Il a des limitations. Ça peut être utile de rappeler aussi que dans l'évangile de Luc, la personne qui se place dans la peau de quelqu'un qui doit se justifier n'est pas en bonne posture. L'exemple le plus parlant viendra au chapitre 18, où l'on y rencontre là aussi un homme religieux qui va au temple pour prier et qui se justifie devant Dieu de tout ce qu'il fait. Par contraste, on a un homme qui ne peut même pas lever les regards vers le ciel, un collecteur d'impôts qui demande pardon, qui reconnaît ses péchés. Et Jésus pose la question de qui sera justifié. Je vous le dis, lorsque ce dernier, il parle du collecteur d'impôts, descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Et ça vaut la peine de s'arrêter quelques instants. Ça ressemble à quoi le fait de vouloir se justifier? Imaginez une situation où vous vous laissez à un moment donné emporter par une colère vis-à-vis de quelqu'un. Quelqu'un d'autre l'observe et veut vous rendre attentif à cela, veut vous aider à le reconnaître. Et vous, pour vous justifier vis-à-vis de cette personne, vous dites « Mais t'as vu la manière dont elle a agi vis-à-vis de moi? C'est pas possible pour moi de réagir différemment. Tu as vu comment elle a agi, ce qu'elle a dit. Et là, on a envie de charger l'autre personne. Une autre manière de se justifier, et même si parfois on peut se justifier de manière tout à fait légitime en expliquant ce qui s'est passé, négativement, on peut charger une personne. Une autre manière négativement de se justifier, ce serait peut-être de charger les circonstances. Écoute, j'ai eu beaucoup trop de travail cette semaine. J'ai eu beaucoup trop de choses à faire. Je ne pouvais pas agir différemment que de la manière dont j'ai agi là. Et on charge les circonstances. On se dit qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et on se justifie de cette façon-là. Mais on peut même aller plus loin dans la manière de se justifier. On peut même avoir à cœur de tellement se présenter comme quelqu'un de juste qu'on est prêt à mentir. Ça vous est déjà arrivé, ça ? De vouloir vous présenter comme quelqu'un de bien et d'aller jusqu'à mentir. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, malheureusement. Je pense à une conversation particulière avec quelqu'un qui aimait beaucoup les films, et moi aussi j'aime bien regarder les films. Et à un moment donné, cette personne passionnée de films parlait de certains films qui sont durs à regarder. Et je me souviens dans cette conversation, pour me présenter comme quelqu'un de bien, lui avoir dit, quand j'étais instituteur, en fin d'année, lorsqu'on regardait un film avec les élèves, je m'assurais qu'on puisse discuter à la fin du film de ce qu'on avait regardé. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. En tout cas, pas à chaque fois. Et si vous rencontriez un de mes anciens élèves, il vous dirait, mais les films qu'on regardait, il n'y avait rien à discuter. Il n'y avait rien d'intéressant à dire. C'était L'Ours, Microcosmos, des films qui, eux, il n'y avait pas assez d'action, pas assez d'éléments à discuter. Mais dans cette conversation, j'avais comme envie de me présenter comme quelqu'un de bien. Et vous voyez le paradoxe ? On veut se présenter comme quelqu'un de bien et on est prêt pour cela à mentir, à déformer la vérité. La plupart du temps, on vit avec l'assurance ou la certitude qu'on est des gens bien, qu'on est des gens qui sont corrects, qui sont justes. Mais comme ce professeur de la loi, face aux véritables exigences de Dieu, eh bien, on doit constater nos limites. Comme le fait de vouloir se justifier ici, paradoxalement, en se voulant se présenter comme quelqu'un de bien, cet homme montre qu'il a des limites, qu'il doit se justifier devant Jésus. On a vu une question, la question de départ. On a vu ensuite la limitation. Et Jésus veut maintenant arriver à la réponse à sa question. Et de manière surprenante, cette réponse, elle est sous forme d'une histoire. L'histoire d'un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho. Et déjà, le tracé lui-même doit nous faire penser que ça sent le roussi. Et ça ne manque pas. Alors que cet homme descend, qu'il y a des cavités sur le chemin, un chemin escarpé, des endroits où des brigands peuvent se cacher, ça ne manque pas. Cet homme d'origine juive est attaqué par ces brigands, roué de coups. Ils prennent son argent, ils prennent tout ce qu'il a, le laissent agonisant, à demi-mort, au bord du chemin. Mais c'est là qu'un prêtre descend. Et là, on se dit, on a affaire à quelqu'un de bien, quelqu'un qui est comme un médiateur entre Dieu et le peuple, quelqu'un qui devrait prendre soin de cet homme à demi-mort au bord du chemin. C'est vrai, il y a des lois de pureté, il a été au temple, et donc il y a certaines réserves peut-être par rapport à un corps qui serait mort, quelqu'un qui serait mort. Mais il y a quand même des situations d'urgence, il y a des situations de détresse, et il devrait pouvoir intervenir. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il passe à côté, il s'en écarte. Vient ensuite un lévite, et lui aussi c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui s'occupe du temple, qui est consacré à Dieu. Et on s'attend à ce que lui s'arrête pour prendre soin de cet homme. Mais lui aussi, il passe à l'écart. Le troisième homme qui vient à passer, c'est un Samaritain. qu'est-ce que fait Jésus à parler d'un Samaritain? Les Samaritains, pour les Juifs, ils sont considérés comme une race mélangée, comme des syncrétistes, comme des gens qui ont détourné la vérité, qui se sont détournés de Dieu, qui ont mélangé leur foi avec d'autres pratiques qui n'étaient pas légitimes, qui ont leur propre temple, leur propre manière de vivre la spiritualité. Comment est-ce que Jésus peut parler d'un Samaritain dans son histoire, prononcer le nom même d'un Samaritain? Et pourtant, si, c'est bien lui, c'est ce Samaritain-là qui va s'arrêter. Et pas simplement s'arrêter, c'est lui qui va, avec les moyens qu'il a, prendre soin de cet homme, avec du vin, avec de l'huile, panser ses blessures. Et pas simplement dans les risques, le risque de s'arrêter, il va aller plus loin que ça, il va le mettre sur sa monture, il va l'amener dans une auberge, il va donner tout ce qu'il faut pour que cet homme puisse être soigné. Et dans sa grande générosité, il va même dire à l'aubergiste, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Il n'a même pas la note finale, et pourtant, il garantit que cet homme va être soigné jusqu'au bout. À la surprise générale, c'est un Samaritain le héros. Lorsque vous écoutez cette histoire, naturellement, vous devez vous poser la question, dans la peau de qui est-ce que je dois me placer? Naturellement, moi, j'ai vécu en Suisse, j'ai grandi en Suisse. Pour passer le permis de conduire, pour conduire une voiture, on doit avoir un cours du Samaritain, basé sur ce texte ici. L'idée, c'est de pouvoir apporter les premiers soins à des personnes qui sont en détresse. Et naturellement, j'ai envie de me placer dans la peau du Samaritain, de la personne qui vient en aide à une autre personne. Et peut-être vous aussi, naturellement, vous avez envie de vous placer dans la peau de ce Samaritain qui vient à l'aide d'une autre personne. Et si on comprend la parabole dans ce sens, ça signifie tout simplement qu'il s'est posé la question « Jusqu'où est-ce que je dois aimer ?» Eh bien, Jésus lui dit, tu dois aimer comme ce Samaritain a aimé ce Juif. Jusque-là. Et ça a du sens. Ça a du sens de réfléchir de cette façon. On verra que c'est bien une des leçons à tirer de cette histoire. Mais je vous suggère que, dans un premier temps, on doit aller plus profond dans cette histoire. On doit comprendre à qui on a affaire. Qui est ce Samaritain? Il y a plusieurs commentateurs qui mettent en évidence des éléments intéressants. Le premier est mentionné par exemple par Amar Djabala dans un commentaire sur les paraboles où il pose la question, est-ce qu'un auditeur juif, il se serait naturellement mis dans la peau de ce Samaritain? Pourquoi est-ce que Jésus a distribué les rôles comme il l'a fait? Après tout, ça aurait été beaucoup plus naturel s'il avait dit, écoute, c'est un Samaritain qui est roué de coups et laissé à demi-mort, et toi, le Juif, tu n'es pas un prêtre, tu n'es pas un lévite, mais tu es un Juif respectable, et bien toi, tu vas aimer jusqu'à ce Samaritain, jusqu'à ton ennemi. Mais Jésus n'a pas distribué les rôles comme ça. L'homme à demi-mort, c'est un Juif. Et la personne qui vient au secours de ce Juif demi-mort, c'est un Samaritain. Déjà, il y a la surprise de la manière dont les rôles sont distribués. Ensuite, on peut se demander si c'était la même question qui s'était posée au départ. Vous vous souvenez de la question qu'il avait posée dans un premier temps? La question de départ de cet homme, c'était « Qui est mon prochain ?» Mais remarquez comment Jésus change la question à la fin. Au verset 36, il dit « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands ?» Cet homme voulait savoir qui était son prochain. Et Jésus dit « Lequel de ces trois a été le prochain de cet homme à demi-mort ?» La question, elle a été changée. C'est un autre élément qui nous fait réfléchir. D'une part, la distribution des rôles, et aussi la question qui a été changée. Alors, qui est qui dans cette parabole? Qui est qui dans cette parabole? Souvenez-vous de l'ordre dans lequel on a vu ces choses. On a eu la question de départ. Comment avoir la vie éternelle? On a vu assez rapidement les limitations de cet homme. On a eu la réponse de Jésus. Alors, qui est qui dans cette histoire? Et si cet homme qui vient poser une question à Jésus, si ce théologien, ce professeur de la loi, allait plus mal qu'il ne le pensait? Si cet homme qui vient vers Jésus était incapable de se sauver lui-même? Si cet homme qui vient vers Jésus devait se voir comme à demi-mort? Alors c'est vrai, c'est pas naturel de se voir dans cette peau-là. Qui a envie de se voir dans la position du faible, de celui qui ne peut même pas se relever, de celui qui ne peut même pas se sauver lui-même? Honnêtement, on n'a pas envie d'être dans la peau de ce juif à demi-mort au bord du chemin. On a plutôt envie d'être dans la peau de celui qui vient au secours des autres. Mais est-ce qu'on est vraiment en mesure de se sauver soi-même? Est-ce qu'on est vraiment capable d'aimer parfaitement Dieu, parfaitement notre prochain? Est-ce qu'on est vraiment capable d'être approuvé par Dieu dans tous les domaines de la vie? Quand on regarde notre passage et ce qui précède, on voit que Jésus montre les limites de ceux qu'il a appelés à le suivre. Regardez par exemple ce qu'il dit au verset 21, ou plutôt écoutez, quand il prie son Père, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux tout-petits, à ceux qui précisément manquent de ressources. » Et avant cela, aux disciples qui disent, « Même les démons nous sont soumis !» Jésus leur dit, « Mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. » Autrement dit, ne vous appuyez pas sur ce que vous êtes capable de faire, mais plutôt de ce que Dieu a fait pour vous. Et si nous aussi, comme ce théologien, on était appelés à réfléchir à cette parabole, et comme si nous aussi on était appelés à se placer dans la peau de cet homme à demi-mort, alors il y en a peut-être, comme ce juif, qui auront tendance, comme moi, comme vous, on aura tendance à se dire, mais on n'en est quand même pas là. On n'en est quand même pas là. On n'est pas sans ressources, incapable de vivre de manière juste. Et si on allait plus mal qu'on ne le pense? Il y a deux attitudes qu'on voit chez ce professeur de la loi, qui nous disent qu'il va plus mal qu'il ne pense. Deux attitudes qui sont à la fois aveuglantes et destructrices. Aveuglantes parce que la vérité nous est cachée, la réalité nous est cachée. Est-ce qu'on voit clair quand on a le sentiment d'être quelqu'un de juste? Est-ce qu'on voit clair quand avec arrogance on s'approche d'un Jésus pour le piéger, le prendre de haut? Est-ce qu'on voit clair quand on a constamment le besoin de se justifier, de se présenter comme quelqu'un de bien? C'est aveuglant, l'auto-justification, la prétention. Mais c'est aussi destructeur. Dans les relations, est-ce que vous connaissiez quelque chose de plus destructeur que quelqu'un qui est arrogant, qui prend les gens de haut, qui se croit comme quelqu'un de bien? C'est destructeur dans nos relations et pour nous-mêmes aussi. C'est destructeur aussi d'être dans une auto-justification permanente parce qu'on est finalement constamment en train de vouloir se présenter comme quelqu'un de bien et on vit dans un décalage avec la réalité. C'est là que Jésus désire nous donner un regard lucide sur nous-mêmes, conscient de nos limites, nous pousser à reconnaître qu'on est bien fragile et faible. Mais pas pour nous faire mijoter dans un état misérable. C'est bien pour nous relever. C'est bien pour nous relever qu'il veut dire cette histoire. Parce que si cet homme à demi-mort, il a peu de valeur aux yeux du prêtre, il a peu de valeur aux yeux du lévite, quelqu'un va voir la valeur de cet homme aux yeux de quelqu'un qu'on n'attendait pas, de l'étranger, de celui qu'on ne considérait pas, il va avoir de la valeur. Celui qu'il n'attendait pas, celui dont il pensait ne pas avoir besoin, lui va s'arrêter. Jésus, lui, en tant qu'étranger, en tant que personne qu'on méprise, qu'on regarde de haut, lui va s'arrêter. Et le prix, la valeur de la vie de cet homme à demi-mort, est-ce qu'elle ne se voit pas là dans ce que ce Samaritain est prêt à faire pour lui? Jan Grzebski a eu un destin très particulier. C'est un Polonais qui, en 1988, a découvert qu'il était atteint d'une tumeur au cerveau. Et durant cette année, il est tombé dans le coma. Et à ce moment-là, les médecins ont cru que c'était la fin, qu'il lui restait que quelques mois à vivre, tout au plus 2 ans. Et à ce moment-là, sa femme a décidé de ramener son mari à la maison, décidé de prendre soin de lui. Et ce n'est qu'en 2007, 19 ans plus tard, que cet homme a émergé hors du coma. 19 ans plus tard, il a émergé. Et les médias se sont emparés de l'histoire. Ils ont vu quelqu'un qui avait traversé la chute du mur de Berlin, la chute du communisme, dans le coma, et qui découvre une nouvelle réalité. Mais face aux journalistes, alors que Jan Grzebski est interrogé, il reconnaît en toute simplicité, c'est Gertruda qui m'a sauvé. Sa femme qui a pris soin de lui. Elle s'est occupée de changer son mari de position toutes les heures, prenant soin de lui, et parfois dans les larmes et dans les prières. Elle va dire sa détresse, mais elle va prendre soin de lui pendant 19 ans. Un médecin interviewé reconnaît que son épouse a fait le travail de toute une équipe de soins pendant 19 ans. Au moment du diagnostic en 1988, alors que les médecins prédisent que ce sera quelques mois, quelques 2 ans tout au plus, quelle est la valeur de la vie de ce Jan Grzebski? Quelle est la valeur de cette vie alors qu'il ne peut pas bouger, alors qu'il ne peut pas parler? Et pourtant sa femme, dans son regard, dans son amour pour lui, a été prête à faire tout cela, 19 ans, à renoncer à son autonomie pour prendre soin de son mari, renoncer à sa liberté pour prendre soin de son mari. Alors que Jésus raconte cette parabole, il sait très bien ce que va lui coûter le fait de prendre soin de nous. Il est en route pour Jérusalem, il sait le rejet qu'il va subir, il sait la mort qu'il va subir à la croix, il sait combien cela va lui coûter de payer pour notre rançon, pour notre pardon, pour nous relever, pour nous donner cette sécurité éternelle dans la maison du Père. Il sait combien ça va coûter et pourtant il est prêt à renoncer à sa liberté pour nous rendre libres. Il est prêt à renoncer à son autonomie pour nous rendre autonomes tout en étant dépendants de lui. Il sait aussi mettre toutes les ressources en jeu, nous bénir de toutes les bénédictions célestes pour nous permettre d'avoir l'assurance de la vie éternelle. Ce n'est pas dans nos ressources qu'on va pouvoir puiser dans les moments de crise. Ce n'est pas dans nos ressources ou dans les capacités à faire ceci ou à faire cela, les dons, les charismes qu'on a, qu'on va pouvoir se justifier dans les moments de crise, se relever. Ce n'est pas dans le fait d'avoir un bon tissu relationnel, même si ça a son importance. Ce n'est pas dans le fait d'avoir telle ou telle place dans l'Église qui va nous permettre d'être relevé. C'est bien dans la sécurité que Jésus nous donne, dans le prix qu'il a été prêt à payer pour nous. Et Jésus va conclure par une extension. Une fois qu'on a saisi qui est ce Samaritain qui est venu à notre secours, il y a bien une invitation à aller plus loin
pour nous dans notre amour. Va agir de la même manière, toi aussi. Va agir de la même manière, toi aussi. L'extension. Une fois qu'on a compris nos limitations, une fois qu'on a compris ce que Jésus a été prêt à faire pour venir prendre soin de nous, nous relever, nous sauver, alors à notre tour, on sera en mesure de pouvoir venir en aide aux autres. Il y a bien une invitation à aller plus loin que ce qu'on aurait tendance à faire sur la base de nos propres capacités, de nos propres dons. Si j'ai compris ce que Jésus a fait pour moi, si j'ai compris l'amour qu'il a eu pour moi, la guérison qu'il a opérée, alors moi j'aurais envie de prendre soin d'autres personnes. Mon amour, il sera moins limité qu'avant, pourra s'étendre même jusqu'à mes ennemis, comme Jésus a aimé ceux qui le mettaient à mort. Au service de Christ dans l'amour, ça signifiera que dans mes relations en famille, au travail, avec mes voisins, avec mes amis, celui ou celle que j'ai tendance à mépriser, je serai prêt à aller plus loin dans mon amour pour cette personne-là. Ça signifie que celui ou celle qui a besoin d'être accueilli, ben je serai prêt, parce que moi-même j'ai été accueilli, à aller plus loin dans mon accueil, à payer un prix plus fort. Celui qui m'a blessé par sa parole, par ses actes, et qui a besoin de pardon, parce que j'ai été pardonné, je pourrais aller plus loin dans le fait de pardonner, d'aimer. Celui ou celle qui vit un temps de fragilité pour l'une ou l'autre raison et qui a besoin tout simplement d'être aimé, eh bien je pourrais aller plus loin parce que moi-même j'ai expérimenté cet amour. Dans son amour, j'aurais moins peur d'être rejeté parce que je sais qu'il m'a recueilli. Dans son amour, j'aurais moins peur de donner sans recevoir en retour parce que je sais qu'il a donné sans avoir en retour le prix qu'il a payé. Dans son amour, j'aurais moins peur de payer un prix fort parce que je sais qu'il s'est dépensé entièrement pour moi. Que Dieu nous donne la grâce de comprendre, de saisir l'amour qui a été manifesté en Jésus. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons reconnaître, comme cet homme avait besoin de le reconnaître, nos limites face aux exigences de ton amour, de ta loi. Et donne-nous, Seigneur, de ne pas être dans des auto-justifications. Brise, Seigneur, ce sentiment d'orgueil, cette prétention à pouvoir vivre de manière juste. Cette prétention à nous croire quelqu'un de bien par nature, de juste aux yeux des autres, à tes yeux. Et donne-nous au contraire, Seigneur, d'être émerveillés de ce que tu es venu en Jésus nous chercher alors que nous étions sans ressources, à demi-morts. Donne-nous d'être saisis par cet amour et le prix qui a été payé, au point de pouvoir, dans la sécurité de cet amour, aller plus loin à notre tour pour aimer. Et nous te le prions pour la gloire de Jésus-Christ, l'avancement de son règne en nous et autour de nous. Amen.